Ray, d'abord bonjour.
Bon matin, messieurs.
Avant de parler de golf, j'aimerais ça t'entendre sur le match des Raptors hier, là, victoire in extremis.
Quasiment un an, jour pour jour, là, après que les Raptors et Kawhi Leonard aient réussi le tir magique lors du septième match de la deuxième ronde contre Philadelphie, là. On est en deuxième ronde, troisième match. Les Raptors tentent de défendre, il reste 20 secondes, puis les Celtics, qui sont excellents dans le contrôle du ballon, réussissent un panier avec 0,5 secondes à faire. Prennent les devants, et ça semble fini pour les Raptors, parce qu'une défaite les amènerait avec un déficit de 0,3, quasi insurmontable.
Ben, quasi, alors, écoute, j'ai été étonné de lire hier, aucune équipe dans l'histoire de la NBA a surmonté
arrivé.
Un 0-3. Ouais.
C'est jamais arrivé. C'est arrivé 4-5 fois dans le hockey dans l'histoire, mais jamais dans la NBA. Alors, visiblement, les chances des Raptors étaient finies. Sauf qu'au basketball, c'est une des choses que le sport amène, tous les sports. Ces fins de match dramatiques captivent les gens. Alors, les Raptors prennent le ballon. Les Celtics envoient un gars de 7 pieds 2 pouces pour défendre l'entrée du ballon, la prise de possession sur les lignes de côté. Kyle Lowry lance le ballon à l'autre côté complètement du terrain, puis OG, le joueur des Raptors qui a saisi le ballon, Anunoby, lui doit le prendre et tirer instantanément. Alors, les Celtics pris par surprise, le ballon doit avoir quitté les mains avant que le tableau arrive à 0,0 secondes. Évidemment, c'est ce qui est arrivé hier soir. Donc, en une demi-seconde, on a vu un drame extraordinaire qui a fait en sorte que, soudainement, les Raptors sont dans la série. Et soudainement, c'est relancé. Et ce suspense-là, cette émotion-là, c'est ça la beauté du sport. Puis le basketball, diverti de cette façon-là, c'est comme un but à la dernière seconde au hockey. C'est comme un but en prolongation hier pour les Flyers. Hier, c'était une bonne soirée de sport. Les Canucks, les joueurs canadiens au tennis. Honnêtement, la nomination de Steve Nash, entraîneur-chef à Brooklyn. Bonne journée pour le Canada hier.
Parlons de golf maintenant.
Bon, c'est le début hier là, de la FedEx Cup. Je veux parler de la FedEx Cup parce que c'est un gros tournoi. Ce sont les séries éliminatoires du golf. Ça commence jeudi, ça se termine dimanche. C'est l'accumulation de tout ce qui s'est accumulé en points durant la saison. Il y a juste 30 golfeurs. Puis une des raisons que je veux en parler, c'est le côté financier. Le gagnant, ce week-end, se mérite 15 millions de dollars. Celui qui termine au 30e rang, il part avec un chèque de 395 000 dollars. Donc, okay, ouais. Le dernier, il fait quasiment un demi-million, puis le premier en fait 15 millions. Ce qui est un peu démesuré. On est d'accord que ce sont les séries. On est d'accord que les gars ont joué toute l'année pour arriver à ce niveau-là. Mais ça souligne deux, trois choses. Les inégalités dans le sport individuel. Quand tu es au tennis ou au golf, tu dois gagner, tu dois performer, tu dois te qualifier pour avoir des bourses. Les gagnants, les meilleurs, les superstars du golf et du tennis ramassent toujours les grosses bourses. Ils sont très riches et ça cause un peu de tension. Jouer au golf pour atteindre le niveau de la PGA Tour, il faut que tu t'embauches un caddie, il faut que tu aies un entraîneur, il faut que tu aies un thérapeute, un masseur. Il faut que tu voyages. Tu payes tes hôtels, tu payes tes autobus, tu payes tes repas, tu payes ta voiture de location, tes billets d'avion, peu importe. Tu payes tout. Contrairement à un sport individuel où l'athlète joue dans une équipe, a un contrat semi-garanti et bénéficie et tributaire du succès de son équipe. Mais quand tu es individuel, c'est une toute autre histoire de connaître du succès. Puis là encore là, même si tu te qualifies pour la PGA Tour, il faut que tu aies des résultats qui te donnent des bourses intéressantes au cours de l'année pour vivre. Au golf cette année, en 2020, il y a 91 golfeurs qui ont gagné $1 million ou plus. Ça semble important. Mais il y en a 210 qui ont gagné 100 000 ou plus. Mais il y en a plus de 40 qui ont gagné moins de $100 000.
Tu peux mais pas ça, gagner 100 000, là, à part les frais, là.
À part les frais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est ton 100 000 brut. Là, tu commences à payer tes impôts et tes frais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la route est très longue. On a déjà parlé des chemins qui mènent vers le sport professionnel. Je veux dire de quoi? Pour jouer au golf ou au tennis, il faut que tu aies un encadrement, il faut que tu aies des ressources dans la famille, il faut que tu sois bon, puis il faut que tu sois un peu chanceux pour arriver à te mériter des bourses pour arriver à ça. Parce que les meilleurs restent toujours en excellente position, ils ont les moyens financièrement de le faire. Mais les joueurs secondaires, il faut qu'il trime très dur pour arriver à avoir un résultat.
J'ai c'est vu juste un documentaire, le coup d'un caddie. Un documentaire sur 3-4 golfeurs là, qui, à chaque semaine, se battent pour faire la coupure. Ils voyagent ensemble dans un Winnebago, de tournoi en tournoi, en espérant faire la coupure, jouer la fin de semaine. Puis sinon, ben on repart, puis on se dirige vers l'endroit Absolument. Du prochain tournoi. Puis c'est comme ça que les gars vivent.
Tu te promènes dans ta voiture de location d'un Motel 6 à un autre Motel 6. Non, mais littéralement, Paul, c'est tough, là. Puis je veux pas, encore une fois, c'est un privilège de faire du sport professionnel, mais faut être réaliste aussi. Juste pour terminer, quelques points sur la saison de golf de la PGA Tour. Parce qu'ils ont réussi à combattre la pandémie. Ils ont eu 13 tournois depuis la reprise des activités. Il y a eu 2-3 cas positifs au début, quelques cadets, 2-3 golfeurs. Mais honnêtement, la saison se conclut ce week-end, puis c'est un succès sur toute la ligne, le golf, cette année. Ils ont réussi à passer au travail. Ils ont remis le tournoi comme le US Open qui va être en 2020. Le US Open qui aurait dû avoir lieu en juin va avoir lieu à l'automne. Le Masters aussi. Donc, ils ont reconfiguré le calendrier. Et l'autre chose qu'on fait, je le souligne, parce que j'ai été critique à leur endroit la semaine dernière, ils ont signé hier une entente où ils vont donner 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour des causes de justice sociale dans les communautés aux États-Unis. Alors, c'est un beau geste, puis il faut l'applaudir.
Merci, Ray. Bon week-end, puis on se retrouve mardi. Il est 8h29.